Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des jours où faire de la radio et j'espère l'écouter est un cadeau, j'entends plus encore que d'habitude. Ce matin, c'est d'une comète, dont nous allons parler. Une grande dame morte en 1967, un poète de grand talent, plusieurs fois primé par l'Académie française, pourrait-on dire, mais cette précision n'aurait pas été du goût de cet oiseau sauvage, comme une mésange virevoltant dans le ciel, quand nous avons souvent l'impression d'être des grosses poules qui n'arrivent pas à décoller. Balade dans les airs ce matin avec cette femme poète dont le procès en béatification est en cours, Marie Noël. À la découverte du poète Marie Noël, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, Geneviève Emmanuel, vous êtes dominicaine et vous êtes actuellement au monastère de Prouille, près de Fangeaux, lieu important pour les dominicains. Vous nous en direz quelques mots. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement ce matin. On va peut-être commencer par ça. Prouille, c'est donc à côté de Fangeaux et Fangeaux a une place particulière dans l'histoire des dominicains. En quelques mots, pourquoi ?
C'est-à-dire, Prouille est au pied du village médiéval de Fangeaux. Et c'est là où l'aventure dominicaine a commencé, puisque Saint-Dominique a fondé là son premier monastère en rassemblant quelques femmes issues du catharisme, converties du catharisme par sa parole. Et ce tout petit noyau est devenu
l'ordre dominicain. Alors vous êtes encore quelques dominicaines là-bas.
Un peu plus que quelques.
Quelques, oui. On voit d'ailleurs quand on va à Fangeaux justement une statue dans la ville de Saint-Dominique recevant comme une révélation divine. Ça fait un peu bizarre de voir ça aujourd'hui dans une ville. On n'a pas souvent l'habitude de voir ce type de statue dans nos villes françaises laïques. Aujourd'hui donc on va partir à la découverte de Marie Noël. Marie Noël probablement méconnue de la quasi-totalité de nos auditeurs. Dans cette première partie, on va essayer de faire une courte biographie, comme on fait souvent quand on part à la découverte de personnalité. Après, on essaiera de voir les grands traits de sa spiritualité ou de son œuvre, puisque c'est un poète. On a décidé de dire un poète, hein, je précise, et pas une poétesse. Et à la fin, vous nous direz pourquoi vous aimez particulièrement cette femme et vous donnerez quelques pistes. Alors, on se lance dans la biographie. Marie Noël est morte en 1967. Donc, son procès en béatification a été ouvert le 23 décembre 2017 à l'occasion des 50 ans de sa mort. Vous me disiez vous-même que vous l'avez rencontrée un peu de manière inopinée, donc elle est peu connue et pourtant pour vous ça a été une révélation, on commencera peut-être par ça.
C'est-à-dire que ça fait quand même un certain nombre d'années que je lis, que j'ai découvert les poèmes de Marie Noël. Mais ces dernières années, quand j'ai appris qu'il y avait un procès en béatification, je me suis replongée dans son œuvre parce que ça m'a, sur le moment, un peu étonnée. Et c'est là, c'est en relisant ces dernières années, peut-être surtout son œuvre en prose et puis ses lettres, que j'ai découvert le chemin spirituel de Marie Noël et où j'étais vraiment interpellée.
On citera des poèmes hein, au long de cette émission, peut-être pas encore tout de suite. Alors cette femme est née en 1883, donc à Auxerre. Elle a passé une bonne partie d'ailleurs de sa vie dans cette ville. Comme toujours, il est intéressant de voir dans quel milieu, dans quelle famille elle naît. Alors c'est une famille très contrastée que celle de ce poète. Famille très cultivée, de tradition catholique, avec des parents qu'elle a profondément chéris, mais des parents, on va dire, assez différents les uns des autres, un père philosophe et plus ou moins non-croyant, une mère un peu plus croyante, une grand-mère très croyante. Expliquez-nous un peu ce milieu familial contrasté.
Alors d'abord, elle a vécu toute sa vie à Auxerre. Hein. Elle est née et elle est décédée à Auxerre.
Une grande unité de lieu, presque une religieuse.
Ah oui, oui. Elle a pas fait vœu de stabilité, mais elle a observé la stabilité. Donc, elle naît à Auxerre parce que son père est sommé par ses parents de revenir à Auxerre. Il avait fait lui-même des études brillantes. Enfin, au départ, il voulait être architecte. Et puis, pour ses parents, ce n'était pas une situation
convenable.
Donc, il est enseignant dans le sud de la France, il est à Cahors. Ses parents lui demandent de revenir avec sa femme à Auxerre et il accepte. Donc son père sacrifie sa première passion et puis ensuite sa carrière qui aurait pu être universitaire à ses parents. Donc c'est un homme soumis, même si c'est un homme qui a sûrement des idées bien arrêtées. Il est complètement incroyant. Sa femme, comme vous le disiez, est croyante, mais sans plus. Par contre, la grand-mère paternelle est une femme profondément religieuse qui va avoir une grande influence sur Marie-Noël.
Alors elle disait d'elle, c'est une espèce de sainte raisonnable. Elle l'appelait sa grande parleuse, sa chanteuse aussi. On voit qu'elle avait une intimité particulière avec cette femme. Donc c'est une famille qui n'a pas de soucis d'argent aussi, il faut le dire. Hein.
Ah non.
Propriétaire de plusieurs biens immobiliers, donc ça va l'aider aussi peut-être dans sa vie artistique. C'est une jeune fille passionnée de musique. Elle a trois frères, c'est ça hein ?
Elle est l'aînée de trois frères.
L'aînée de trois frères. Qu'est-ce qu'on pourrait préciser encore à propos d'elle ? Son tempérament dès ses plus jeunes années ?
Alors, une extrême sensibilité, voire une sensibilité maladive qui inquiète un peu son père, qui est très cartésien, et qui parle de son arrière-boutique, qui s'inquiète de ce qui se passe dans l'arrière-boutique de la tête de sa fille.
Voilà, ça fera sourire probablement un certain nombre de parents. Donc une grande sensibilité. Alors elle aura tout au long de sa vie des moments difficiles dus à cette fragilité psychologique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fragilité ? Parce qu'on a vite fait, un certain nombre de saints auraient eu cette fragilité psychologique, on a vite fait de la montrer du doigt ou de la caricaturer. La fragilité, c'est quand même probablement la chose la plus partagée entre nous. Qu'est-ce que vous pourriez préciser sur ce sujet ?
Alors, oui, effectivement, on a beaucoup parlé de la fragilité psychique et physique de Marie-Noël, puisqu'elle n'a pas pu faire des études normales. C'est son père qui l'a instruite à la maison, puis des institutrices. Mais en fait, elle a vécu 84 ans et elle a traversé énormément d'épreuves.
Elle a connu la guerre aussi.
Elle a connu les deux guerres, où elle s'est vraiment, la première guerre, où elle a essayé de s'investir auprès des blessés, enfin pas très longtemps parce que sa santé ne lui permettait pas, mais moralement, elle a vécu des choses vraiment très difficiles et elle les a traversées. Donc effectivement, il y avait une fois, elle a fait deux séjours en maison de santé, elle a été soignée, mais elle a traversé toute une vie.
Elle s'est occupée donc de sa maman aussi qui était malade, d'une tante qui était aussi très malade. Bref, elle est restée célibataire donc toute sa vie, mais c'était une femme donc qui avait quand même aussi une très grande force intérieure. Voilà. Il y a d'autres choses à préciser. Le milieu dans lequel elle a grandi et surtout l'ambiance ecclésiale. Elle le disait, il y a chez nous un vieux fond janséniste mal élimé, et puis mon père, professeur de philosophie, nous a surtout appliqué les directions de Kant, la défiance de ce qui nous plaît, le rejet des sentiments et les convenances personnelles, la recherche de l'obligation morale. C'est aussi une époque en fait du christianisme, sœur Geneviève Emmanuel.
Alors oui, elle a vécu dans un milieu terriblement marqué par un jansénisme ambiant. Elle écrit par exemple « En ce temps, tout respirait la crainte de Dieu et la voie du salut n'en menait pas large. » Et on sent qu'il y a en elle déjà très tôt une espèce à la fois un désir de soumission et en même temps quelque chose qui veut faire éclater ses cadres. Donc à la fois elle accepte et elle souffre et elle pressent qu'il y a autre chose, qu'elle est dans un milieu qui l'étouffe quelque part.
Elle imagine qu'elle a la vocation, elle se rêve souvent en carmélite, et puis il y a quelque chose qui fait écho aussi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, pour le coup beaucoup plus connue. Elle dit la chose suivante: « La vocation religieuse, je l'ai eue, j'ai cru la voir de 12 à 16 ans, mais j'étais bien incapable de n'aimer que Dieu seul. J'avais toutes les vocations à la fois, vie religieuse, mariage, maternité, par-dessus tout, poésie. Au fond, je n'en avais qu'une, l'amour. » C'est une femme aussi extrêmement passionnée et qui avait le cœur très large. Hein, ça fait écho à ce que disait Thérèse de Lisieux.
Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une réelle influence des écrits de Thérèse sur Marie-Noël.
Il y a deux drames dans sa vie, si on avance dans sa biographie, avant de parler de sa vie de poète, sur lesquels il faut s'arrêter. Donc, elle a 21 ans, c'est à Noël 1904. Racontez-nous ces deux grandes épreuves qu'elle a traversées.
Alors, on ne peut pas en dire grand-chose, un peu plus de la deuxième que de la première. La première, c'est qu'elle laisse... elle n'y a fait que des allusions, mais toute son œuvre en est imprégnée. Apparemment, elle a aimé un homme qu'elle a laissé partir parce que sa famille ne jugeait pas que c'était convenable au niveau social. C'est pas le même milieu social. Elle s'est soumise, comme son père s'était soumis à ses parents. Elle s'est soumise, mais la mort dans l'âme. Et puis, donc, elle situe cet événement à Noël 1904. Et deux, trois jours après, elle trouve son petit frère, Eugène, qui a 10 ou 11 ans, mort dans son lit. Elle raconte que pendant plusieurs semaines, sa mère a hurlé. Et donc, ces deux événements qui se passent au moment de Noël 1904 ont été vraiment comme une sorte de bascule dans son existence. Jusqu'à présent, Dieu, pour elle...
Elle avait une grande foi. La relation à Dieu lui était très naturelle.
La relation à Dieu lui était naturelle.
Elle avait eu aussi des révélations un peu mystiques. En tout cas, elle raconte qu'à 12 ans...
Disons des émotions. Ouais. Des émotions mystiques, mais...
Ô mon Dieu, d'aujourd'hui, vous m'êtes apparu sans visage, et ce jour-là, je vous ai vu, et j'ai manqué d'en mourir, vous m'avez tenu dans la nuit à distance infinie, et il n'y a plus eu des mains entre vous et moi pour nous joindre. Alors ça, elle raconte plutôt la distance, pardon, qui
alors
entre...
là, à ce moment-là, c'est au moment de ces deux grandes épreuves, justement, elle réalise que Dieu, le Dieu qu'elle avait prié, aimé jusque-là, n'était pas... pas le Dieu, le Dieu qui se révélait à elle à ce moment-là était vraiment le tout autre, qui remettait un peu tout en cause.
Alors à propos de ces drames, elle a aussi cette phrase « Serais-je consolé un jour ou puni de mes colères contre la mort ? La mort m'a toujours trouvé hurlante face au ciel. » C'est une très belle citation et qui dit aussi quelque chose de cette femme et de sa poésie. Et je vous propose maintenant qu'on parle brièvement de sa vie de poète. Après, on se plongera dans son œuvre davantage et on verra les grands traits de la vie de cette femme et un peu de la spiritualité quelque part de sa poésie. C'est une femme d'une grande liberté. Elle dit dans ses poèmes, alors peut-être est-ce le rôle des poètes, parfois elle trouve les mots pour dire ce qu'on pense tout bas ou ce qu'on vit, et parfois ce qu'on n'ose pas aussi s'avouer. La mort m'a toujours trouvé hurlante face au ciel. C'est une expression qui parle de sa liberté. Parlez-nous de cette liberté, sœur Geneviève Emmanuel.
Alors, effectivement, ce qui frappe beaucoup, surtout à partir de 1904, c'est qu'elle ose dire... Elle s'adresse souvent à Dieu directement et elle ose l'interpeller comme un Dieu, le Dieu... Enfin, elle est complètement retournée dans sa foi. Et donc, elle va exprimer... L'écriture va avoir un rôle thérapeutique. Elle osera exprimer ses contradictions, enfin toutes les contradictions qu'il agite, tout ce qu'elle reproche à Dieu, elle va le lui jeter à la figure, si j'ose dire. Et ça en fait une... Elle va reprocher... Toute sa quête va se faire à l'intérieur de l'Église catholique, à laquelle elle appartient profondément. Mais elle écrit « Il y a dans le catholique un être satisfait, supérieur, celui qui possède la vérité, plein de sécurité et de certitude, c'est en quoi je suis mal catholique. » Et là, je pense que quand elle commence à oser s'adresser à Dieu, un peu comme Job, il y a toute la liberté qu'elle porte en elle, qui commence à jaillir toute une vie, parce qu'elle pressent que Dieu est du côté, elle sait quelque part que Dieu est du côté de la vie et non du côté de la mort.
Alors son œuvre poétique donc va se développer de plus en plus, elle recevra de nombreux prix, prix de l'Académie française, grand prix de poésie Toujours de cette même académie. J'ai cru même qu'elle avait été primée par l'Académie des Jeux Floraux, hein, qui est dans notre pays, qui est à Toulouse. Elle aura connu le succès de son vivant. Ses œuvres sont publiées. Ça va même un moment aussi l'aider à vivre, alors que la fortune familiale aura fondu après la guerre, si j'ai bien compris. Dites-nous quelques mots aussi de ceux qui ont été sur son chemin. Pour l'aider à se lancer, j'allais dire, dans sa mission de poète. Il y a son parrain pour commencer.
Alors son parrain, d'abord son frère Pierre, qui était lui-même poète et qui est le premier à admirer les œuvres de sa sœur. C'est à cause de lui qu'on commence à en parler dans la famille. Son père, lui, est très réticent, ne comprend absolument rien à la poésie et décide de consulter son ami Raphaël Perrier, qui est un de ses condisciples, qui est le parrain de Marie-Noël. Et c'est Raphaël Perrier, qui est libre penseur, complètement incroyant, qui dit à sa filleule: tu es poète, tu as plus de génie que de métier. Donc là, elle a 25 ans, et c'est grâce à lui qu'elle va être lancée. Quelques poèmes vont être publiés dans la revue des demandes.
Oui.
Et puis, par ailleurs, elle va consulter, parce qu'elle est prise, elle a énormément de scrupules, elle adore la littérature, elle aime beaucoup Victor Hugo, Paul Valéry. Victor Hugo est à l'index. Donc pour elle, c'est un cas de conscience terrible. Et sur le conseil d'amis, elle va s'adresser à l'abbé Munier.
Alors dites-nous qui est l'abbé Munier. Alors, c'est une figure qu'on ne connaît pas, mais qui a eu un rôle à la fin du 19e.
C'est une figure vraiment étonnante. On l'appelait le confesseur du tout Paris. C'est un prêtre tout à fait simple qui se promène en soutane et gros godillot et chapeau dans les salons les plus huppés de Paris, qui a accompagné
Huysmans, hein.
Voilà, la conversion de Huysmans, qui est devenu un ami et le confident de la princesse Bibesco, enfin tout un monde aujourd'hui complètement disparu. Donc Marie-Noël lui écrit, et elle lui écrit le jour de ses 35 ans. Et c'est une correspondance qui va durer toute la vie de l'abbé Munier. Et l'abbé Munier aura une influence absolument capitale sur elle. Elle témoigne: il ne cessa de délier les bandelettes que la religion avait serrées autour du pauvre Lazare que j'étais, mis au tombeau par des mains trop rigoureusement vertueuses.
Et puis l'abbé Munier, donc, qui aussi a eu cette phrase à son égard: vous avez une harpe au cœur et dans les mains, bénissez Dieu, ce don est rare. Plus de scrupules, votre talent a besoin de liberté, vivez. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour qu'on se plonge un peu plus dans l'œuvre et peut-être la citer davantage de ce magnifique poète Marie-Noël.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte du poète Marie-Noël, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous pour nous en parler, Geneviève Emmanuel, vous êtes religieuse dominicaine et vous êtes actuellement au monastère de Prouille, près de Fangeau, donc au lieu de l'ordre dominicain, puisque c'est à cet endroit que Saint-Dominique donc, a eu la révélation de la fondation de l'ordre. C'est bien ça, hein, j'ai bien écouté, non, vous souriez.
Oui, à cause du mot révélation.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'était si ce n'était pas une révélation ? L'intuition.
On va dire oui, c'est mieux.
Voilà, l'intuition.
Et puis, il n'a pas fondé l'ordre. Il a rassemblé quelques femmes converties par lui, dont il a fait un pôle de prière et de fraternité pour accompagner sa prédication. Lui-même était seul et les frères arriveront 10 ans après.
Bon, donc il faut absolument que je fasse une émission sur Saint-Dominique. Alors, Marie-Noël, dans l'œuvre de cette femme poète, puisqu'on a décidé de dire poète et pas poétesse, il y a quelques grands traits que vous voulez souligner. Le fait que c'est une femme donc, dont la vie a été de chercher Dieu, pour commencer, à travers toute son œuvre poétique, vous nous direz cela. Et puis, vous voulez aussi mettre l'accent peut-être sur le cheminement solitaire et sur la relation compliquée qu'elle avait avec l'Église. Je vous propose de commencer par citer un de ses poèmes, qui, je trouve, en tout cas, moi, m'a parlé et que j'ai trouvé très beau. C'est un poème qui s'appelle « Poème du lait ». C'est une mère qui s'adresse à son petit. Je n'en citerai qu'un extrait. « Capte ce lait chaud de m'avoir traversé. Ô bourgeon de la mamelle, ah, tu me blesses. Le savais-je la douceur d'être blessé, ouverte et saignant comme une orange vive, qui fond en miel et n'est plus sous la gencive. Plus rien qu'une joie à la gorge laissée. Adam, Adam, la douceur d'être mangé, qui la savait ? Qui savait le cher supplice d'être la gorgée émouvante qui glisse et qui m'entraîne tout en mon petit changé ? » Bref, je dis bref parce que c'est vrai que peut-être lire de la poésie à l'antenne, c'est un peu compliqué, il faut se plonger dans son œuvre. Vous me disiez, on prépare l'émission, que Marie-Noël, c'est une femme en fait, qui n'a jamais douté de l'existence de Dieu, mais le fond de sa quête, ça a été de chercher son visage. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et c'est-à-dire que pour elle, la question, effectivement, n'est pas est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, c'est qui est Dieu. Et donc, en fait, elle est habitée, c'est une femme qui est habitée par des contradictions, déjà au niveau psychologique, etc. Elle est dans, on disait qu'elle est dans un milieu très, très resserré, un milieu ambiant pétri de jansénisme. Et en même temps, elle perçoit que Dieu est le Dieu de la vie. Or, son expérience, c'est que Dieu permet des épreuves terribles. Donc, comment concilier ? Enfin, ça, c'est nos questions à tous. Dieu est. Dieu, s'il est, il est bon. Or, il y a le mal. Donc, comment s'en sortir ? Et donc, toute son écriture est à la recherche d'une espèce d'unification profonde de son être, à la fois sur le plan spirituel et psychologique. C'est complètement
mêlé. Vous disiez aussi, vous dites aussi qu'il y avait un combat en elle entre le beau et le bien. Ça veut dire quoi ?
Alors, je pense que toutes ces aspirations, au niveau, c'est une artiste. Avant d'être poète, elle est musicienne. Elle a été pétrie par les vieilles chansons françaises. Elle dit que chez elle, tout le monde chantait. Sa mère, sa grand-mère, les bonnes, tout le monde chantait. Et donc, pour elle, c'est d'abord la musique qui va tenir une beaucoup plus grande place que la littérature. Quand elle commence à écrire des vers, ou à l'école, on lui dit qu'elle n'a aucun sens littéraire. Et donc, il y a en elle comme un jaillissement, et ce qui va faire sa poésie et son écriture, c'est ce sens inné du rythme. Et je pense qu'elle elle a le pressentiment que Dieu est rythme, Dieu est vie, Dieu est jaillissement. Et le problème, c'est que à la fois son milieu ambiant et les épreuves auxquelles elle est confrontée ne font pas, ne lui donnent pas l'image de ce Dieu-là, tout au contraire.
Alors il y a une chose aussi que vous précisez, c'est que c'est une femme. En tout cas, quand on voit sa vie, on voit qu'il faut du temps, que Dieu agit dans le temps pour arriver à découvrir Dieu. Et elle, c'est un peu comme cela. Vous dites que c'est aussi un peu comme l'histoire, comme l'Écriture sainte, comme l'histoire en fait. L'histoire du peuple saint que sont aussi les baptisés. Dites-nous quelques mots de cette révélation progressive en fait qu'elle accepte au fur et à mesure de sa vie.
C'est-à-dire, oui, je fais ce rapprochement, je ne sais pas s'il est très juste, mais de la Bible comme l'histoire de tout un peuple et la quête du vrai Dieu. Si vous isolez tel passage de la Bible, vous pouvez prendre un autre passage qui apparemment dit exactement le contraire. Et je pense que il faut du temps à une il nous faut à chacun du temps pour unifier, pour enfin toute notre vie finalement, c'est essayer de trouver Quel est ce Dieu qui m'appelle, à quoi il m'appelle, et sortir de toutes nos contradictions. Alors, je parlais effectivement du beau et du bien. Elle se sent fait pour le beau, mais le bien tel qu'il lui est présenté lui semble contrecarrer toute sa vocation d'artiste. Et elle vit un perpétuel tiraillement.
Alors j'ai noté un autre passage aussi, elle disait « Que d'efforts, que de coups, que de temps, que de grâce de Dieu pour user et mortifier tant de forces espérantes qui ne sont pas acceptables dans le groupe familial. » Donc ça, on en revient un peu à ce combat intérieur. « Je ne me suis pas assez aimé, toute ma vie a été de muser, me raboter pour faire passer difficilement mon chameau et ses bosses par le trou de l'aiguille bourgeoise, paroissiale et familiale. » Ça dit déjà quelque chose aussi de son rapport à l'Église. Vous vouliez aussi souligner le chemin solitaire de cette femme. Alors la solitude, ça nous parlera à chacun, parce que dans le fond, c'est un peu le secret de Polichinelle de chacune de nos vies, ce sentiment de solitude qui peut parfois être le nôtre. Il y a cette phrase que vous m'avez donnée, « Perdu dans la vie des autres, perdu, me retrouver, être moi sauvage comme je l'ai été dans ma jeunesse, quand personne ne me regardait ni ne me comptait, quand je n'étais rien pour personne, mais mon champ pour moi, je n'ai plus de place, plus de part, trop de prochains. » Parlez-nous un peu de cette solitude, ce chemin solitaire de Marie-Noël.
Ce chemin solitaire, elle y a consenti quand elle a laissé partir l'homme qu'elle aimait, auquel elle est restée fidèle, mais c'est une nostalgie. Hein. Et elle sentait très bien aussi que pour écrire, il lui fallait de la solitude. Et donc, il y a eu ce tiraillement entre... Et puis, qui correspondait aussi à un besoin. Et elle avait une sensibilité un peu maladive. Donc, à la fois, une difficulté à être avec les autres. Elle se sentait très vite envahie. Et en même temps, elle était heureuse de la reconnaissance, de la gloire. Elle dit à un moment que finalement, elle commence avec la notoriété, elle se sent aimée et elle se sent devenir autre. Donc il y a cette contradiction entre ce besoin de solitude qu'elle a pour laisser libre cours à son inspiration et en même temps... ce besoin d'être avec les autres. Et puis aussi, mais les autres, qu'elle sent aussi comme envahissant, pas seulement au niveau de la gloire, mais elle a...
Sœur Geneviève, juste, en quoi ça peut nous parler à chacun, ça, cette solitude? Quel pont vous feriez entre tous les gens que vous croisez et puis éventuellement aussi avec la vie que vous avez, même si vous avez une vie très singulière?
Bien, la solitude, d'abord, c'est le lieu de notre rencontre, je pense, avec le Seigneur, puis avec nous-mêmes. Donc, on en a absolument besoin. Mais en même temps, il y a un équilibre à trouver avec la vie sociale, etc. Et Marie-Noël se sentait aussi tiraillée parce qu'elle se sentait un devoir. Elle avait un sens du petit et du pauvre qui était absolument... prodigieux.
Donc elle était aussi constamment sollicitée.
Elle était constamment sollicitée.
Attentive.
Alors à un moment, comme elle n'avait pas besoin de travailler au niveau, matériellement, donc elle s'est engagée comme demoiselle d'œuvre dans la paroisse. Mais c'était quelque chose qui ne lui convenait absolument pas, mais qu'elle se sentait obligée de faire. Et donc là, c'est une des choses où l'abbé Munier lui a dit « Vous n'avez qu'une bonne œuvre à faire, c'est la vôtre. Et des demoiselles d'œuvre, on en trouvera toujours. Vous, votre œuvre, c'est la poésie. Vous avez à vous y consacrer totalement. »
Il y a autre chose à propos de la solitude, donc c'est ce combat intérieur profond qu'elle vivait. On peut tous le vivre. Alors elle n'est pas encore sainte, mais j'ai souvenir d'un père Carme qui m'avait dit une fois que les saints, en fait, ils vivent comme de manière exponentielle ce qu'on vit, ce que chacun d'entre nous peut vivre dans sa vie. Il y avait elle, chez elle, vous dites sa nature profonde était comme du côté du défendu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh bien que... Justement, enfin, c'est ce conflit en elle qui est pour laisser jaillir le beau. Pour elle, le bien est vraiment quelque chose. Voilà, il faut qu'elle se conforme à une certaine idée qu'on se fait d'elle. Et donc, ce conflit, il est à ce niveau-là.
Et puis vous disiez aussi, c'est le conflit entre le beau et le bien, parce que parfois on avait peut-être une idée aussi des arts ou de la littérature, ben, comme vous dites.
Voilà, et puis l'idée...
Vous dites que Victor Hugo était à l'index à l'époque, ça fait quand même réfléchir. Oui.
L'idée qu'elle se fait aussi du bien qui lui est demandé.
Parlons maintenant de son chemin avec l'Église. C'est une femme donc, qui est d'une grande liberté, en tout cas quant à ses propos avec certains excès peut-être de l'Église, avec une certaine forme de cléricalisme. Elle a cette phrase « J'ai toujours eu peur des abbés ». Alors, ça ne fera pas forcément plaisir à certains. Je citais ce passage aussi ce matin, où on retrouve presque des accents du pape François, se demander s'il n'a pas lu Marie-Noël. « Je me prends à avoir peur de ces douaniers, de ces gendarmes, pour toute la pensée qu'ils défendent d'introduire en terre de Dieu. J'ai peur, si j'avais par mes gardes sur moi un peu de cet or interdit, si j'allais être fouillé, arrêté pour contrebande, si j'étais mauvaise catholique à cause qu'ayant trop peu de soucis des champs de ce monde, de leurs poteaux et de leurs bornes, je ne me suis guère préoccupé que du royaume éternel si je suis arrêté un jour. » Ce rapport à l'Église, douanier, gendarme,
belle-mère,
garde champêtre,
belle-mère aussi, belle-mère abusive, autoritaire.
C'est presque du pape François, ça, Sœur Geneviève, non?
On trouve des accents, effectivement, on peut trouver des accents du pape François dans une certaine liberté de parole. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette vision de l'Église qu'a Marie-Noël est comme aussi contrecarrée par son expérience, déjà son expérience tout enfant. L'Église, pour elle, au départ, c'est un lieu. Elle vit à l'ombre de la cathédrale et elle accompagne là sa grand-mère dans un lieu qui pour elle est un peu magique, que son père passionné d'architecture va lui faire découvrir, donc déjà ce lieu. Et puis l'église, c'est aussi la liturgie. Elle a cette expression extraordinaire de la liturgie, c'est l'illumination du temps. Donc c'est... il y a un très très bel article du frère François Cassingena Trévedi sur la liturgie et Marie-Noël.
Alors donc ce qu'on entend dans votre propos, donc c'est qu'elle avait, on va dire, en horreur une certaine forme de cléricalisme.
Voilà.
Elle étouffait un peu à l'intérieur de l'Église, voyant en elle donc une forme de belle-mère autoritaire, en tout cas l'Église de cette époque, et qu'en même temps elle reconnaissait toute sa beauté donc dans les lieux, la liturgie. Qu'est-ce qu'elle a pu dire aussi? Vous dites qu'elle a un sens spirituel aiguisé de la liturgie. Ça veut dire quoi, ça?
Bien, elle a été pétrie de la liturgie. Elle assistait aux vêpres, aux complies. Il y avait, je pense, que la musique a joué un très grand rôle aussi dans ce sens spirituel qui l'a accompagnée toute sa vie. Mais en même temps, ça lui a permis de se créer un univers intérieur qui va l'accompagner toute sa vie, qui va être une lumière pour toute sa vie. Mais elle ne se laisse pas enfermer Même si, par exemple, au moment après le concile, elle voit vraiment disparaître le latin. Pour elle, c'est tout un côté, c'est tout le côté du mystère de la liturgie qui disparaît avec. Donc, elle le regrette, mais on sent que son amour de l'Église est fondé sur des bases très profondes. Alors, il y a un tout petit passage où elle dit que finalement, elle aime aller prier à l'Église, mais plus que ça, elle dit qu'elle laisse finalement l'Église aux dévots qui vont se recueillir à la fin du jour devant l'autel avant que la porte de Dieu pour la nuit ne soit fermée, et qu'elle, elle va prier dans les champs, elle va prier dehors un peu pour le monde. Donc, on sent très bien que ça, il y a pour elle une espèce de sentiment de la communion des saints qui va beaucoup plus loin, de la communion entre les hommes qui dépasse à la fois, qui dépasse l'Église, même l'Église institution. Elle a des... Voilà.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour essayer de comprendre un petit peu plus Marie-Noël, de voir pourquoi en fait elle vous parle tant et pourquoi vous l'aimez tant. Des très belles choses en fait qui peuvent parler de notre vie à chacun. On va dire que le visage que l'on découvre de Dieu au fur et à mesure de sa vie, c'est peut-être aussi mystérieusement la vocation qui est la nôtre. En tout cas, c'est le cas de Marie-Noël et c'est ce que vous en avez compris. Et puis vous nous donnerez à la fin de cette émission quelques pistes pour aller plus loin, pistes de spectacle ou de lecture.
Thank you. présence dans la cité mariale 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte de Marie-Noël, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec vous, donc Geneviève Emmanuel, vous êtes religieuse dominicaine au monastère donc de Prouille, près de Fangeau. Et puis, j'ai oublié de le dire, c'est vous qui avez sélectionné les textes de ce poète, Marie-Noël, donc, qui est une femme, dans Paroles et prières, qui fait partie des petits livrets qui peuvent nous accompagner au long des mois pour nous aider à prier. Paroles et prières qui proposent chaque mois donc, une figure spirituelle. Et pour ce mois de janvier, c'était donc Marie-Noël. Sœur Geneviève Emmanuel, on l'a compris au long de cette émission. Dites-nous pourquoi vous avez eu un tel coup de cœur au long de ces années pour cette femme.
Alors je pense d'abord pour sa liberté d'esprit qu'elle a su, qui peu à peu a jailli un peu comme une source qui est cachée, qui a empêché de sourdre par des tas de choses. Et puis peu à peu, de plus en plus, la source jaillit. Et la source jaillit grâce à la parole de Dieu qui la travaille. J'aime bien cette phrase du pape François qu'il a dite dans l'homélie de dimanche dernier, qui nous dit « La parole qui nous sauve ne va pas à la recherche de lieux préservés, stérilisés, sûrs. Elle va dans nos complexités, dans nos ténèbres. Aujourd'hui comme hier, Dieu désire visiter ces lieux où nous pensons qu'il ne va pas. » Et Marie-Noël, je pense, s'est laissée visitée par Dieu. Elle-même a interpellé Dieu dans ce qu'elle ne comprenait pas de lui, mais elle s'est laissée pétrir par sa parole. Et je pense, le document conciliaire Dei Verbum dit que l'Église croit, que l'intelligence, que l'Église croit non seulement, croit dans le sens de croissance, non seulement grâce aux prédications, mais par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles. Et il me semble que dans la poésie de Marie-Noël, elle nous donne comme un écho de ce qu'elle porte en elle, de sa façon de lire les Écritures.
Alors vous dites aussi que pour vous, c'est un peu comme des évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes, c'est donc des évangiles qui ne sont pas au canon de l'Église, qui donnent parfois force détails ou plus de détails donc sur la vie de Jésus. On se garde bien de les lire parce que justement, on se demande si c'est tout à fait juste. Pourquoi est-ce que vous faites cette comparaison avec l'évangile apocryphe, avec les évangiles apocryphes ?
Et par exemple, dans le Rosaire des Joies, où elle reprend tous les premiers épisodes évangéliques de Saint-Luc, comme la Visitation, l'Annonciation, l'Épiphanie, voilà, elle met en scène, alors je peux en lire l'un ou l'autre.
Allez-y sur l'Annonciation, je vous propose.
Par exemple, l'Annonciation. « La Vierge Marie est dans son bonheur. Il y a dans toi, Vierge, un petit roi, et nul ne s'en doute. » Midi, le repas, rien n'est prêt. Midi. Donc on a tout d'un coup, alors on est dans le mystère, et puis tout d'un coup. Midi, le repas, rien n'est prêt. Midi, Joseph va rentrer, ma mère crie, « Où mets-tu le bois ? Je souffle le feu. » L'ange aurait bien dû nous aider un peu. Voilà l'eau, le pain, hâtons-nous, Marie. Et de même, dans la visitation, on a ces deux femmes, Marie et Élisabeth, et tout d'un coup, le poème qui se termine d'une façon tout à fait abrupte, mais voici Zacharie au seuil de la maison.
Et puis vous parlez aussi vous citez aussi un passage à propos de l'Épiphanie, dans l'étable, les trois trésors, l'or, l'encens et la myrrhe que la Vierge a serré bien précieusement dans le coffre de voyage. Autour de l'étable dehors, les crottes de dromadaires que la Vierge Marie a balayées après le départ des rois. C'est aussi ça, la vie chrétienne et la grande mystique. Hein. C'est aussi les choses les plus concrètes. J'aimerais que vous nous parliez aussi, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission, et à vous entendre, c'est tout l'intérêt aussi probablement de parcourir la vie de tous les saints, même si elle n'est pas du tout encore sainte, hein, puisque pour l'instant seulement son procès en béatification est ouvert, mais en tout cas l'œuvre de certains poètes, c'est de voir comment Dieu se dessine petit à petit et de faire confiance au temps. Expliquez-nous ce qu'elle a un peu découvert à la fin de sa vie, cette espèce de lâcher prise, comme on dirait aujourd'hui, qui semble-t-il a été le sien. Il y a comme une forme d'apaisement quelques temps avant de mourir.
Je pense qu'elle a consenti à la vie qui était la sienne. Voilà, pas la vie dont elle aurait rêvé, mais la vie qui tout simplement a été la sienne. Alors il y a un texte que je trouve magnifique, c'est le jugement.
Alors vous me faites
elle
signe.
S'imagine.
Vous me faites signe parce qu'il faut que je le lise. Alors ça va être difficile de citer certains passages, peut-être pendant que je les cherche. Est-ce que vous pouvez introduire le propos de ce passage? C'est-à-dire qu'elle découvre aussi à la fin de sa vie que si elle n'a pas tout à fait eu la vie qu'elle voulait, c'est peut-être mieux comme cela, non? Expliquez-nous.
C'est-à-dire qu'elle, elle aurait rêvé de pouvoir se consacrer complètement à son art, à sa poésie. Mais il y avait la vie de tous les jours. Elle s'est laissée aussi interpeller par toutes les sollicitations de tous ceux qu'elle a pu aider. Là, vous avez parlé au début de sa maman, sa vieille tante, et puis un tas de gens à qui elle a consacré du temps. Et alors, je trouve ça extraordinaire parce que à la fin, elle a le sentiment que c'est grâce à eux, grâce à ce temps perdu, pour lequel elle se pensait infidèle à son œuvre littéraire, mais c'est grâce à ce temps qu'elle a donné. Alors j'aime beaucoup là les.
Donc c'est un passage de son œuvre. Elle rapporte un dialogue au moment de ce qui semble-t-il est son jugement pendant la pesée des âmes. Et puis il y a un ange, l'ange avocat, qui parle. À qui lui demandait sa robe, elle a donné aussi son manteau. À qui lui demandait un pas, elle a donné tout le chemin. À qui lui demandait une heure, elle a donné toute la journée. Veuillez au Seigneur la sauver par son vêtement abandonné, sa route inutile, son temps perdu. Et puis j'aimerais finir donc ce passage, c'est cette fois la voix d'un vieux prêtre dans l'assemblée, dit-elle. Les abbesses gardent les brebis, pas les biques, et si cette bique-ci avait été trop gardée porte close dans la sainte bergerie, comment aurait-elle de là porté son message aux vagabonds du doute et aux souffrants d'esprit? Il lui fallait pour les atteindre errer un peu, dit ce prêtre qui prend sa défense. Je vous propose, Sœur Geneviève Emmanuel, pour finir, pour ceux qui voudraient aller plus loin, après cette belle émission d'introduction pour découvrir Marie-Noël, qu'est-ce que vous nous donneriez comme piste un peu roborative de lecture?
Alors, je pense que sa biographie, La neige qui brûle, qui a été rééditée en 2010, mais on trouve aussi, je crois, l'ancienne édition encore, est un peu incontournable. Mais pour son œuvre elle-même, moi, je conseillerais bien de commencer presque par sa correspondance avec l'abbé Munier, qui est intitulé « J'ai bien souvent de la peine avec Dieu ». Parce que là, on voit vraiment son chemin de libération spirituelle. Si je peux me permettre juste encore une petite citation, où elle va peu à peu s'autoriser à penser large. « Bonheur de penser à plein esprit, de penser haut, large, libre, dans tous les sens, comme on respire à pleine poitrine, à pleine santé, non pas dans une chambre fermée, mais au grand air, et même quand le vent, qui ne craint rien, apporterait mêlé au ciel quelques miasmes ou renverserait quelques vieilles demeures. » Alors, voilà. Et puis elle a cette phrase, parce qu'elle a toujours un peu peur, elle entend « Folle ce que tu te refuses, ton Dieu te le donne. » Alors tout ça, on le voit à l'œuvre, enfin on voit cette évolution à l'œuvre à travers son livre, à travers sa correspondance avec l'abbé Munier. Et je pense que ce qu'il faut lire aussi absolument, ce sont ses notes intimes.
Alors on récapitule, notes intimes de Marie-Noël, donc aux éditions Stock. « J'ai bien souvent de la peine avec Dieu », dialogue, donc correspondance entre Marie-Noël et l'abbé Munier, aux éditions du Cerf. Et donc « La neige qui brûle », quel magnifique titre, biographie de cette femme par Raymond Echollier aux éditions Fayard. Un grand merci à vous, Sœur Geneviève, d'être venue ce matin nous parler de cette belle et grande figure, donc Marie-Noël, à découvrir, dont le procès en béatification a été ouvert donc en 2017. Merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.